Donc, bonjour, je vais parler en français. Sorry, Ngui, I'm going to speak in French, just so that most people can understand. Les diapos sont en anglais, the slides are in English, donc il y a un peu les deux. Et c'est quand même un papier qui a été publié aussi, donc pour la version plus détaillée, plus longue, vous pouvez, c'est gratuitement disponible en ligne aussi. Donc, je vais prendre un peu un pas de recul par rapport aux présentations parfois techniques ou parfois détaillées au sujet des plantations de peupliers qu'on a entendues et parler de quelque chose qui s'appelle des transitions forestières. Avant de commencer, j'aimerais bien vous montrer quelques photos des paysages où je travaille pour un peu mettre en contexte d'où je parle. Donc, je suis géographe, je suis plutôt dans le milieu universitaire, plutôt dans le milieu des sciences humaines et sociales. Donc, ça, c'est déjà dans une perspective un peu différente. Mais aussi, j'ai longuement travaillé plutôt à Madagascar, sur les hauts plateaux et à Vietnam. Donc, ça donne un contexte un peu différent. Donc, si on parle des hauts plateaux de Madagascar, on a des endroits où il y a très peu de forêts. Donc, ce n'est pas des paysages très forestiers avec beaucoup de rizières, mais quand même quelques eucalyptus. On a des paysages avec des forêts plutôt clairsemées, des savanes boisées d'espèces caducifoles qui sont des espèces indigènes, mais qui sont fortement subies à des feux. On a des petites pochettes de forêts plutôt pluviales qui restent dans des poches humides, tandis que les savanes autour sont brûlées fréquemment. On a des endroits où on a des anciennes plantations forestières en pin faites par l'État colonial français qui se dégradent dans certains endroits par l'utilisation, qui se maintiennent dans d'autres endroits parce qu'il y a des gestions différentes dans différents endroits. Il y a des endroits où on a des stations forestières qui ont maintenant dépassé leurs limites parce que les paysans ont trouvé une économie de bois de chauffage, par exemple. Là, c'est le cas de Acacia dealbata, connu en France sous le nom de mimosa. C'est l'arbre dans les hauteurs, à 2000 mètres à Madagascar, qui est utilisé beaucoup pour le bois de chauffe, que les paysans eux-mêmes sèment et qui revient après qu'on coupe les souches, mais qui aussi dans d'autres régions devient envahissante et envahissent les endroits entre les cultures, entre les pâturages. Et ça, c'est un reverdissement d'une région qui a été longuement beaucoup nue de végétation forestière. Et quand on va vers l'est, où on trouve la forêt pluviale, il y a des mélanges où on a la forêt pluviale, mais aussi des eucalyptus, des acacias et d'autres plantes qui commencent à se mélanger. Donc ça, c'est un paysage où j'ai longuement travaillé et qui influence ma compréhension des choses. Vietnam, on passe dans les paysages de la province de Thoa Thien Huy, au centre du Vietnam, où habite Nghi, où a travaillé Amélie avant, et maintenant où j'ai un projet de recherche sur les dynamiques forestières dans cette province. Et c'est une région où on a des plantations, comme on avait dit, d'acacia parfois de hevea, de caoutchouc. On a des grandes forêts naturelles sur des pentes, des montagnes, des chaînes de montagnes qui sont vraiment biodiverses et très intéressantes. Et c'est une forêt qui est en pleine évolution et perturbation. Donc, il y a des immenses zones de plantations forestières d'acacia dont on vient de parler. Avec cette rotation de parfois 3 ans, parfois 6 ans, rarement 10 ans, ça se coupe, ça se remplace. Maintenant, on est à la troisième ou parfois quatrième récolte depuis le début, dans les années 90 ou 90, de ces zones de plantation d'acacia. Donc, ça c'était en guise d'introduction, juste pour vous mettre un peu d'où je parle. Je parle de la théorie des transitions forestières, et c'est une théorie qui a été créée dans les années 90 par un chercheur anglais qui s'appelle Alexander Mather, Mather, qui est une façon de prendre un pas de recul sur l'histoire longue des forêts au niveau national. et qui constate que dans plusieurs pays du monde, il y a une histoire où on pourrait caractériser l'histoire de la couverture forestière comme une courbe de U, de forme de U. Que on a, historiquement, il y avait un certain niveau, une certaine couverture de forêt avec la croissance de la population, le commencement de l'expansion agriculturelle, l'exploitation de bois pour des industries, il y a une déforestation, mais arrivé à un certain niveau de développement, un certain niveau de gouvernance, on tourne et on commence à replanter des forêts ou que les forêts reviennent elles-mêmes. Donc ça, c'était un peu un parallèle à cette idée de la transition démographique dont on a appris à l'école, par exemple. Et c'est vraiment cette idée que c'est la modernisation économique qui est le moteur derrière cette idée. Donc, dans le travail de Mather et les autres, on a pu montrer ce type de transition forestière, mais c'est vraiment sur des décennies et même des centenaires qu'on voit ça. Donc, sur le continent nord-américain, on voit aux États-Unis, la couverture forestière à 1600, c'était beaucoup plus grande qu'en 1920. On était vraiment arrivé au moment le plus bas de couverture forestière et depuis une centaine d'années, la forêt a reconquis pas mal de terrain aux États-Unis. En France, Mather a aussi mis un diagramme sur la France. On voit que historiquement, pendant des siècles, la couverture forestière était en directe relation avec la population. Chaque fois qu'il y avait plus de population, moins de forêt, moins de population en cause de la peste, plus de forêt, etc. Mais un tournant autour de 1800 où la relation s'est inversée. Et c'est là le U-shaped curve, la courbe en U de couverture forestière, où la relation avec la population était coupée. Et en France, les forêts commençaient à augmenter en surface à partir d'il y a à peu près 200 ans. Et en Europe, c'est plus ou moins, Europe centrale, c'est plus ou moins il y a 200 ans qu'on a commencé à constater. Ça dépend des pays, cette transition. Aux États-Unis, 100 ans plus tard, on voit aussi au Japon ce type de transition, et plus tard en Corée, en Chine et dans d'autres endroits. La théorie des transitions forestières a pris une ampleur plus tard, ou a capté des intérêts de pas mal de monde, parce que au moment quand on parlait de la transition forestière dans les années 90, c'était le moment qu'on parlait aussi de déforestation amazonienne, la perte de la biodiversité. On s'est dit, est-ce que ça veut dire que peut-être dans un moment avec le développement, on va arriver à tourner, à réduire cette déforestation tropicale? Donc il y avait un peu un espoir de dire, bah, quelle leçon peut-on tirer des pays qui ont déjà tourné, fait le virage pour les pays tropicales. Et un des chercheurs sont allés chercher des études de cas, etc. Et un des premiers à vraiment être montré, c'était le pays de Costa Rica qui, dans les années 90, a aussi fait un virage dans la déforestation qui était en outrance, vraiment rapide, dans le milieu de 20e siècle jusqu'à dans les années 70 et 80, mais avec des politiques nationales de conservation des forêts, des politiques mises en place agricoles qui changeaient le focus de l'agriculture extensive jusqu'à des cultures de rente vraiment haute valeur ciblées dans des meilleurs sols, le Costa Rica a pu faire cet virage. Et Nghi a déjà présenté cette courbe de couverture forestière au Vietnam, où depuis l'année qui est souvent prise comme une année de référence, 1943, on assiste à cette courbe de changement de couverture forestière au Vietnam comme un autre pays phare qui notamment se vante aussi d'avoir accompli cette tâche. Les universitaires, on aime bien théoriser les choses, établir des concepts ou des abstractions. Donc on a plusieurs pathways ou plusieurs confluences de facteurs qui peuvent expliquer ces types de transitions forestières. Il y en a 5 ou 6 qui sont dominants dans la littérature académique. Le premier est vraiment cette idée qu'avec le développement économique, les gens Les paysages ruraux marginaux sont de plus en plus abandonnés. Les gens migrent vers les villes où il y a l'industrie, où il y a le travail. Avec le dépeuplement des régions ruraux, les forêts reviennent. Et ça, c'est un peu le moteur classique qui quand même explique pas mal de choses historiquement dans les pays d'Europe et puis aux États-Unis. Mais il y a aussi pas mal d'autres pathways, de chemins vers cette transition qui ont été identifiés. De perspective d'un économiste, on pourrait parler de scarcity, la rareté des choses fait que le prix du bois augmente. Donc il y a peut-être une incitation à planter de l'arbre parce qu'on veut vendre de l'arbre d'ici quelques années parce qu'on voit que le prix augmente. Mais aussi à le state policy, les politiques de l'État ont joué des rôles majeurs en Europe, aux États-Unis, mais le cas du Vietnam le montre très bien. L'État du Vietnam, depuis les années 90, a fait un énorme effort de promouvoir des programmes de plantation d'arbres, notamment des acacias, avec des financements de l'État Vietnam, mais aussi de banques asiatiques de développement, des bailleurs de fonds internationaux. Ils ont mis en place ce programme de titularisation, de cadastrisation des terrains. Le domaine forestier national, des petits bouts de 2 hectares sont transférés à des ménages. Et donc, ils reçoivent un bout de terrain qui puisse mettre en forêt. Et donc, c'est une incitation par rapport à une politique qui met vraiment en place un système où les gens vont vraiment planter des forêts. Il y a aussi la nouvelle politique qui essaie d'éviter qu'on coupe des bois durs dans la forêt naturelle et qui aussi aide à protéger les forêts qui sont déjà, les forêts naturelles qui sont encore là. Il y a d'autres processus, je ne vais pas tarder sur les autres. Chemin des transitions forestières. Il y a juste à mentionner qu'il y a le fait de la mondialisation est quand même assez importante parce que la théorie des transitions forestières était au début une théorie très focus sur les nations et regardait pas trop au-delà des frontières, mais avec la circulation des idées, la circulation des produits, la circulation des discours, des idées et des gens, des migrants, ça peut influencer énormément la couverture forestière. Mais il y a des limites avec cette théorie des transitions forestières. Donc on a vu des statistiques un peu similaires de la part de Nguy juste avant. Il y a la forêt au Vietnam aurait augmenté radicalement depuis 1990, mais l'histoire n'est pas la même chose pour les forêts naturelles et pour les plantations. Donc si le Vietnam a fait le virage de la déforestation vers la réforestation, les forêts primaires sont peut-être pas aussi radicalement, je ne sais pas si ces chiffres sont vraiment les meilleurs, mais la forêt naturelle est quand même encore en train de se réduire et les plantations, c'est essentiellement en plantation d'espèces exotiques que cette courbe, ça consiste dans des plantations d'acacia notamment. L'autre chose qui est un peu une limite avec cette théorie qui est faite au niveau national, c'est que les contextes locaux et régionaux font que l'histoire n'est pas la même chose partout. Donc ça, c'est la carte de Vietnam. Vous reconnaissez un peu le dessin du Vietnam. Et vous voyez là, c'est les différences des changements de forêt naturelle, de plantations de forêt à droite. Et vous voyez que certaines provinces ont des histoires totalement différentes que d'autres. Ce n'est pas partout pareil, cette transition forestière. Il y a des endroits où on continue à avoir énormément de déforestation, remplacée par un peu de plantation. D'autres endroits où il y a beaucoup d'augmentation de forêts naturelles en même temps que des plantations. Et donc, les histoires ne sont pas les mêmes partout. Donc, une chose que j'ai fait plutôt dans le niveau académique, c'est de considérer cette idée de la transition forestière et de me rejoindre à ce débat et faire une contribution dans ce débat. Et une chose qui est importante, c'est que si on veut parler des transitions ou des transformations des forêts, il faut définir qu'est-ce que c'est une forêt. Et notamment quand on parle des plantations de peupliers, plantations d'acacia, est-ce que ça devrait être inclus dans la définition de forêt? Et la forêt, c'est un mot qui est utilisé de façon différente, pour des raisons différentes, pour des buts politiques ou personnels ou esthétiques différentes, et par des différents genres. Parfois, c'est une catégorie que font les gens qui utilisent la télédétection pour dire qu'est-ce qui se trouve sur le sol. Parfois, c'est une catégorie d'aménagement de territoire, de planification. Donc, on peut dire que ça, c'est une aire forestière, mais il n'y a pas d'arbres. Mais c'est à vocation forestière et c'est une forêt dans les statistiques peut-être. C'est peut-être, on a des idées de ce qui consiste une forêt et ce qui ne l'est pas. Et pour certaines personnes, une plantation monoculturale d'un arbre exotique ou hybride, etc., n'est pas une forêt. Pour d'autres, oui, c'est un champ de maïs gigantesque ou est-ce que c'est une forêt? Donc il y a plein de raisons à questionner qu'est-ce que c'est une forêt. Donc finalement, tout le monde est peut-être d'accord qu'une forêt, il faut avoir beaucoup d'arbres ensemble, mais lesquels? Dans quel type de relation entre elles, avec quel type de fonction écologique? Est-ce qu'il y a une limite, un seuil de hauteur? Quand est-ce que c'est un arbre? Quand est-ce que c'est un buisson? Est-ce que ça compte pour celui qui fait la télédétection pour délimiter la forêt, pour celui qui fait des statistiques FAO sur la couverture forestière? Il y a quand même pas mal de questions de qu'est-ce qui est la forêt. Donc, je propose pour cette présentation une autre définition. Et là, je m'appuie sur un article écrit par quatre géographes de Ohio State University aux États-Unis. Qu'ils ont publié un article sur les dynamiques forestières où ils proposent une définition totalement différente des forêts comme des relations, un assemblage de relations et de choses qui sont des relations imprégnées des relations de pouvoir, mais aussi des relations chimiques, des relations d'exploitation entre des gens, différents types de gens, entre des espèces végétales, des arbres, mais autres espèces, entre des espèces du sous-sol, du sous-bois, etc., les animaux qui y sont présents, la pluie, les autres choses. Et donc, alors c'est une définition vague, difficile à mettre en œuvre pour quelqu'un qui fait la télédétection, etc., mais pour reconsidérer l'idée des transitions forestières, je la trouve utile parce qu'elle montre que chaque forêt, chaque endroit qu'on peut appeler forêt, est créé par nous, les humains, par les propriétaires, par les politiques publiques, par les espèces qui sont déjà là, par les espèces que nous on plante, par les conditions des sols, le sol qui est entassé, le ruissellement, la pluie, etc. Tout ça va ensemble pour créer ce phénomène éphémère qui est la forêt. Donc si on considère ça, on peut dire que on peut regarder plusieurs types de transitions de forêt. Il y a bien sûr la catégorie de la transition de la forêt comme catégorie de couverture de sol, comme occupation de sol. Ça, c'est la transition forestière classique qui est forest cover transition. Mais en plus de celle-ci, il faut rajouter quatre autres. La deuxième transition, c'est dans les caractéristiques écologiques des forêts ou de cette chose qu'on appelle les forêts. Est-ce qu'il y a un changement dans les processus écologiques ou dans la composition, les caractéristiques écologiques des forêts qu'on pourrait considérer comme une transition? Donc si dans notre cas au Vietnam, on remplace avec le grignotage une forêt naturelle, même dégradée, avec une plantation d'acacia. Pour les statistiques nationales, c'est de la forêt, c'est de la forêt, c'est de la forêt, mais considérant la qualité de la forêt, des choses ont changé, les fonctions écologiques ont changé, les processus, les composantes ont tous changé. Donc là, il s'agit d'un autre type de transition forestière. Le troisième angle, c'est si on peut considérer les transitions dans les facteurs ou les processus qui créent la forêt. Donc, si une forêt est constituée des semences naturelles plus des apports de gestion par les forestiers, par les hommes qui habitent à côté, aussi par des semences qu'on importe, si on commence à changer des facteurs qui constituent une forêt, ça pourrait aussi être nommé une transition forestière. Donc, si à cause de réchauffement climatique, il y a un changement radical dans le régime de précipitation, ça pourrait contribuer à un changement dans une forêt. De même qu'une politique nationale qui donne une subside grande ou petite, qui change le comportement des gestionnaires, ça pourrait contribuer à un changement de forêt parce que le caractère de la forêt va peut-être changer aussi. Et quatrièmement, quatrième élément, c'est que les forêts sont aussi des idées. Nous avons des idées, des discours sur ce que devrait être une forêt. Qu'est-ce qui est une beau forêt, une belle forêt, la forêt, donc une belle forêt. Qu'est-ce que la forêt devrait être? Et donc, mais ces idées peuvent changer. Donc l'exemple que j'utilise en anglais souvent, c'est le changement quand on parle des forêts pluviales tropicales. Avant, on disait toujours le mot jungle, jungle, et un jungle, c'est quelque chose plutôt négatif. Dans le jungle se cachent des animaux méchants et des guérillas qui vont vous tuer. Mais dès qu'on a appelé ça plutôt un rainforest, c'est plutôt quelque chose qui est beau, qu'il faut sauver. Donc juste le changement d'un mot pour décrire la même chose change des idées, et ça, c'est une transition dans la façon qu'on réfléchit à quelque chose, la façon qu'on utilise le concept et qui peut avoir des conséquences plutôt matérielles, donc des changements plutôt conceptuels, mais qui peuvent avoir des influences matérielles. Et le modèle qu'on peut créer, c'est un peu, j'ai fait un peu comme le modèle des poumons, les forêts étant les poumons du monde, mais que tous ces différents changements, des changements en couverture forestière, des changements dans le caractère écologique des forêts, des forces qui les constituent et des idées, tous ces changements sont liés entre eux et peuvent constituer avoir des effets plus larges. Donc, si on change une politique forestière, elle peut avoir des influences sur la couverture forestière, peut-être aussi sur les caractères de chaque forêt, qui peuvent ensuite avoir des influences sur comment on conceptualise des forêts, comment on réfléchit les idées qu'on a sur les forêts, etc. Donc c'est ce que je voulais vraiment faire avec ce modèle, c'est d'encourager les chercheurs qui travaillaient dans ce domaine de la transition forestière d'aller au-delà des statistiques nationales forestières ou de cette histoire de couverture forestière et de penser plus large et vraiment de considérer dès le début les facteurs qui constituent les forêts, la richesse et les diversités des choses qui peuvent être considérées comme des éléments de forêt pour pouvoir raconter des histoires un peu plus nuancées, plus fines que seulement la courbe en U qu'on voit souvent et que, par exemple, le ministère de l'Environnement au Vietnam est très fier d'avoir cette courbe en U, mais ça cache quand même pas mal d'autres choses derrière. Voilà, merci beaucoup. Question.